Vous allez à cette Anne de Ray?
Oui.
Ah, bah c'est gentil.
C'est pas un reportage?
Si, c'est un reportage radio.
Ah, pas pour
vous. Eh ben si, je vais vous poser des questions.
Ah bon, d'accord.
C'est pour Radio Balise, une radio à Lorient. Ah. Et là, je fais un reportage sur l'autostop.
Alors là, c'est Norbert qui va répondre.
Bah alors Norbert, tu vas répondre, alors, monsieur.
Un micro à la dérive.
Un micro à la dérive.
Un micro à la dérive.
Un micro à la dérive. L'émission qui vous écoute.
Un micro à la dérive. À la dérive. À la dérive.
Un micro à la dérive, qui s'écarte de la direction normale sous l'effet des vents, des courants. Oui, mais un micro qui revient toujours à son port, chargé de sons et d'envie d'ailleurs. Bonjour à toutes et à tous, c'est reparti pour une demi-heure de stop en compagnie de Norbert et ses amis et de Marie-Caroline avec sa Twingo. Ils vont me permettre de quitter Pluvigné pour rejoindre Plunerette. Mais auparavant, je passerai par Saint-Anne-d'Auray où je vais connaître une longue attente. Et là, j'ai repensé au livre de Simon Baldi de Barral qui s'intitule « Les facéties du stop » et ce dernier écrit ceci. Le stop est profondément initiatique. Il est à la fois un franchissement, on quitte les rivages du confort et de la sécurité, pour celui de la confrontation, celle qui nous oppose avec cette vision proposée par notre société de consommation. Le stop laisse espérer ce que nos sociétés modernes ont progressivement éliminé, ce rite de passage vers l'âge adulte profondément initiatique. De tels vagabondages rappellent ceux pratiqués 9 siècles plus tôt par les jeunes chevaliers. Sortis de l'enfance, adoubés mais pas encore mariés et pères, ils écumaient les tournois et les batailles en quête de gloire et d'amour. Une vie d'amour, de vie d'aventure et de prouesse qui complète leur formation. Dans nos sociétés contemporaines, il existe encore quelques étapes civiles, telles le baccalauréat ou tout autre grand diplôme, marquant l'entrée dans la vie étudiante, mais elles ont perdu leur sens et ne valident plus grand-chose. Prenant une tournure moins violente, la quête de l'autostoppeur n'en a pas moins les mêmes ressorts. Instinctivement, le jeune s'arrache à ses habitudes, au confort familial et social, quitte ses repères pour courir le monde, espérant sortir grandi. Voilà, c'était un extrait d'un bouquin que j'ai vraiment apprécié, « Les facéties du stop » de Simon Baldi de Barral. Et là, il est temps de retourner sur le bitume. Voilà, donc je vais à Saint-Anne-d'Auray, je vais après au Bonneau, je prends les petits itinéraires. Qui a fait du stop parmi vous?
Non.
Personne?
Non. Toi? Pas du...
Moi, mais quand j'étais très très jeune.
Bah, hier, quoi.
Un autre millénaire.
Donc à la fin du 20e siècle. Hein. Voilà. C'est ce qui vous a motivé à vous arrêter?
Non, pas du tout. C'est que j'ai vu Saint-Anne-d'Auray, on passe à Saint-Anne-d'Auray, donc c'était pour donner rendre service.
D'accord. Ouais. Et comment, vous habitez dans le coin?
Oui, on habite à Pluvigné, là, oui.
Il y a beaucoup de gens qui font du stop dans le coin à Pluvigné?
Surtout des jeunes l'été pour aller à la plage, oui.
Pour aller à la plage à Carnac, hein.
Carnac, Erdeven, enfin les plages du coin, ouais.
Et par ici, par exemple?
Non, habituellement les plages, c'est de l'autre côté de la ville.
Ouais.
On avait pris l'été dernier, d'ailleurs. Ouais.
Et ça marche plutôt bien, le stop?
J'ai l'impression que ça marche de moins en moins.
Pourquoi?
Bah, parce que les gens nous disent qu'ils attendent de plus en plus longtemps.
Ah oui, d'accord.
Ouais.
Et pourquoi, selon vous, ça marche de moins en moins?
C'est passé, comme il y a plein d'autres moyens, avec, surtout dans les villes avec Uber et d'autres solutions, je pense que les gens ont moins l'habitude de faire appel à autrui de manière gratuite et non planifiée.
D'accord. En fait, on rend davantage une relation marchande que désintéressée et puis altruiste.
Peut-être, oui, peut-être. Ouais.
Sécurité, moi je trouve, plutôt. Moi je m'arrêterais pas pour prendre quelqu'un si je suis toute seule.
Parce qu'on part du principe que l'autostoppeur est de nature violente?
Non, même pas. Je serais un peu craintive pour le coup.
Et vous?
Ouais, donc pareil. Ouais, je crois que je serais pas très à l'aise. Enfin, ça dépend. Si c'est une jeune femme ou si c'est. Ou, oui, ou des jeunes, il n'y aurait pas de souci, mais sinon, effectivement, toute seule, moi, non, je ne serais pas très à l'aise non plus.
Mais est-ce que déjà, on voit beaucoup de femmes faire du stop?
On voit des jeunes qui vont à la plage, qui veulent sortir, qui veulent aller dans la ville voisine, n'importe quoi, donc pourquoi pas.
Est-ce que vous pensez que le stop va disparaître?
Je ne pense pas. Je pense pas, mais ça sera de plus en plus rare. Et ça sera vraiment pour dépanner, rendre service à l'occasion. Mais il n'y aura plus comme à une certaine époque où les jeunes partaient en vacances avec le sac à dos et en autostop. Et compter sur les gens pour s'arrêter et faire des segments de route. Ça, je pense que ça ne va plus exister.
La personne qui m'a prise auparavant m'a expliqué que, selon elle, beaucoup de gens à qui on avait retiré le permis, donc d'un certain âge, on va dire 40-50 ans, se retrouvaient au bord de route à attendre le pouce en espérant qu'on les amène. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Non, je ne sais pas du tout.
Honnêtement, depuis qu'on est en Bretagne et qu'on prend nos autostoppeurs, vous cassez la moyenne d'âge. Habituellement, ils étaient plutôt à 22-25 ans. Donc moi, je n'ai pas été confronté à des gens de cette catégorie-là. Après, c'est vrai qu'ici, il y a quand même pas mal de gens qui ont eu des petits soucis avec la maréchaussée et ont perdu le permis. Donc peut-être que c'est vrai en semaine. On ne l'a pas repéré.
Est-ce que pour vous, le stop, c'est un indicateur de solidarité dans le pays?
Ça peut être vu comme ça, j'y avais pas pensé, mais ça peut être vu comme ça, oui. J'en rajouterais juste, pour moi, la confiance, elle va dans les deux sens. Parce que là, on parle de la personne qui est au volant et qui fait confiance à l'autostoppeur, mais il faut se mettre aussi, nous, quand on a pris des jeunes avec des jeunes filles, alors certes, j'étais avec mon épouse et moi-même, mais deux jeunes filles qui montent dans une voiture d'inconnu, il y a également une relation de confiance qui doit s'établir, parce qu'on peut imaginer tout et n'importe quoi.
Et à votre avis, qui prend le plus de risques, hein, l'autostoppeur ou bien le conducteur?
Les deux.
C'est pas au volant, hein, l'autostoppeur.
Oui, c'est vrai.
Moi, mon expérience, c'était que l'autostoppeur prenait davantage de risques. Il ne choisit pas la voiture.
Oui,
et souvent, j'ai eu affaire à des gens qui n'étaient pas en état de conduire, ou la voiture n'était pas en état de rouler, ou alors simplement, il y avait un problème de vitesse.
Oui.
Ah oui, aussi.
Oui, là, je reconnais que, effectivement, que nous, on peut...
De toute façon, il y a un choix aussi,
oui,
on n'est pas obligé de monter.
Choix.
C'est-à-dire que si vous arrêtez, vous n'avez pas confiance en la personne qui s'arrête, eh ben, vous pouvez très bien dire non aussi,
ouais.
des deux côtés. Si tu ne veux pas t'arrêter, ouais. Tu ne t'arrêtes pas. Celui qui doit monter, ben, s'il ne veut pas monter justement parce qu'il n'a pas confiance dans la personne ou dans la voiture, etc., ben, il ne monte pas. Après, chacun ouais. est libre quand même de la décision de monter ou de ne pas monter.
Sa liberté dure 2-3 secondes, le temps d'adresser un regard. Et,
ouais.
et c'est dur de dire non à quelqu'un qui s'arrête en voiture. Surtout quand il pleut et qu'on attend depuis une demi-heure.
C'est vrai. Ça, vous avez attendu longtemps?
À peu près 7-8 minutes.
Oh, ça va.
Pas beaucoup de voitures. Bon, je me suis mis à genoux, hein, voilà, c'est un de vrai. Et là, j'ai entendu une voix et d'un coup, votre voiture s'est apparue.
C'est ça.
Ah, surtout que j'y croyais pas, une voiture avec. Enfin, c'est quoi comme voiture?
Un Picasso
à 5 places, il ne reste qu'une place. Je dis non, c'est pourri, c'est d'avance,
pas
c'est pas la peine.
C'est pas possible. Oui, c'est pas bon. Bah oui. On prend le monsieur. Je dis, ah bon? Ok.
Et vos enfants, ils font du stop?
Non.
Non.
Non, non, et je préfère ça d'ailleurs.
Ouais.
Et vous, monsieur?
Non, non plus, ils font pas de stop.
Taxi.
Non mais c'est pas ça, c'est comme on en revient toujours à la région parisienne, c'est qu'en fait t'as tous les transports, donc il n'y a pas de raison, enfin ouais. pour des courtes distances, il n'y a pas de raison de faire du stop. Et en fait aujourd'hui les jeunes, quand ils veulent partir bah, par exemple en vacances, aujourd'hui ils privilégient le train avec les cartes d'abonnement qui sont disponibles.
Ou les
flexibus,
BlaBlaCar.
On a fait ça aussi pendant les grèves quand il y avait les trajets pour venir jusqu'à Nantes, mais non, elles ont, c'est même pas dans leur ADN, quoi. Je pense qu'elles ont jamais eu cette, cette demande.
Le BlaBlaCar, c'est une sorte d'autostop planifié en fait.
Ouais, c'est
ouais.
ça.
Ouais. Mais c'est bien ça. C'est plus.
Ah, mais moi, BlaBlaCar, ils utilisent du BlaBlaCar.
Tu partages l'essence et pas l'essence.
Et tu connais les gens à l'avance par rapport à la question qui était posée, est-ce que les gens se font confiance ou pas? Maintenant, avec les applications, ça permet d'avoir, effectivement, on connaît un peu la personne dans les deux sens, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui prend et celui qui est pris, quoi. Est-ce que ça rassure, peut-être?
La prochaine pancarte que je vais écrire, je vais écrire BlaBlaCar m'a tué. Parce que d'une relation gratuite et altruiste, on est passé à une relation marchande.
Exactement, c'est vrai.
Parfois même avec des BlaBlaCar qui offrent des services à bord, boissons fraîches, payantes.
Ah oui,
c'est scandale, ouais.
D'accord.
Et donc, comment, je serais curieux de voir, enfin, de rencontrer des gens qui font à la fois de BlaBlaCar et qui prennent des gens en stop.
Ah ouais. Ah oui. Ça, je sais pas trop.
Alors, voilà. Vous arrêtez là.
Oui.
Bah, très bien, je vais à Auray.
Bah, sinon, on peut vous amener jusqu'à Auray.
On va à Auray.
Bah, non, 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 je vais prendre.
Non, le but, de personne.
Ouais, c'est voilà. De rencontrer d'autres personnes.
De changer. Bah voilà.
J'avais affaire à.
Sandrine.
Sandrine.
Annick.
Norbert.
Et Thierry.
Merci tout le monde. Et à une prochaine.
Bon courage à vous.
Bon courage.
Le stop du transport en milieu urbain est probablement mort à cause de l'offre pléthorique de cars ou de vélos à louer. Et même encore plus fort, pour ceux qui croient encore aux vertus du hasard dans l'autostop en ville, il existe une appli, pas portable, elle s'appelle WeHop. Elle permet de mettre en liaison un piéton autostoppeur et un automobiliste moyennant une toute petite somme mensuelle.
Avant, il y avait l'autostop. On pouvait aller au Larzac, en Inde, à condition bien sûr d'être patient. Très, 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 très patient. Mais ça, c'était avant. Parce que aujourd'hui, avec WeHop, il y a le Smart Autostop. Qu'est-ce que c'est ? C'est du stop, mais en plus smart, quoi ! Vous faites du stop avec votre phone, votre smartphone. Ce qui est smart, c'est de faire du stop sur de courtes distances. Malakoff, La Défense, Saint-Denis, Paris. Vous êtes dépité à l'idée de marcher 20 minutes sous la pluie, un bus raté, ou tout simplement pas envie de prendre les transports en commun ? Il vous suffit de lancer l'application WeHop et de monter dans la voiture du WeHopper qui va dans votre direction. WeHop, vous allez dans la même direction ? Oui ? Alors hop, on vous met en relation et sans réservation. WeHop, ça vous coûte le prix d'un ticket par mois pour un nombre de trajets illimité. Oh, sympa, non ? WeHop, ça permet de faire des rencontres en toute sécurité et en toute tranquillité. Parce qu'on sait à l'avance par qui, où et à quelle heure on va être pris en stop. Tout ça grâce à la géolocalisation, enfin bref, le truc qui sait où t'es et quand tu y es. Et l'automobiliste qui prend un piéton, qu'est-ce qu'il gagne ? Eh bien, il peut utiliser le service gratuitement en retour. Mais ce n'est pas tout, il peut aussi gagner des coupons de réduction, des chèques carburant, des cadeaux et aussi de l'estime ! Parce qu'il a dépanné, qu'il a aidé quelqu'un sur son trajet. Et tout ça, sans changer ses habitudes. WeHop, c'est la nouvelle alternative smart pour se déplacer en ville au quotidien. Alors, n'attendez plus et rejoignez dès maintenant la communauté WeHop.
Dans le plus grand immeuble du plus grand quartier, de la plus grande ville du département, j'ai emménagé le plus petit appartement pour aller apprendre à l'école un métier. Mais la ville n'est pas faite pour quelqu'un comme moi. Le bitume me déprime et me mine la mine. De jour en jour, le gris de la ville me lamine. En bref, je risque de ne pas finir le mois.
Permettez-vous que j'interrompe votre tirade. Je viens de m'installer ici et suis comme vous. La ville me dégoûte aussi et je vous avoue, toutes les nuits rêver que dans les prés je gambade.
Que diriez-vous d'une petite virée au vert, dans un coin de campagne préservé de la ville?
C'est une bonne idée mais sans automobile, je crains que nous soyons coincés dans cet enfer.
Nous partirons en autostop,
découvrir d'autres horizons,
autour des chevaux qui galopent
et des fleurs qui poussent à foison.
L'odeur du fumier est meilleure que celle des gaz d'échappement, et le chant des oiseaux rieurs vaut mieux que les klaxons vraiment. Et le chant des oiseaux rieurs vaut mieux que les klaxons vraiment. Après avoir vogué de voiture en voiture, nous voilà de retour dans l'enceinte de béton
où nous sommes bien vite redevenus piétons, le teint revigoré par l'air de la nature.
En voyant les pigeons estropiés des boulevards, je ne peux m'empêcher de penser aux rouges-gorges, aux poules, aux lapins, aux renards qui les égorgent. Je serai prêt à payer cher pour les revoir. Nous partirons en autostop,
découvrir d'autres horizons,
cueillir orchidées et hysopes,
jusqu'à en perdre la raison.
Le bleu du ciel, le vert des arbres, les teintes que la terre peut avoir valent mieux que les visages de marbre qui courent les rues sans même se voir. Valent mieux que les visages de marbre qui courent les rues sans même se voir. Pendant les mois et les années qui s'enchaînèrent,
nous avons voyagé dans des pays lointains,
regardant le soleil se lever chaque matin,
en ayant passé une courte nuit en plein air. Enfin,
de nos acquisitions, où nous pûmes constater que sans hésitation, nous avions découvert la vie grâce à nos pouces. Car nous partions en autostop,
découvrir d'autres horizons,
du bout de la Bretagne à Saint-Trope,
un baluchon comme maison.
Nous sommes partis, oui, pour longtemps, sur les routes et même au-delà. Mais nous n'eûmes pas beaucoup d'enfants, car ça finit toujours comme ça. Mais nous n'eûmes pas beaucoup d'enfants, car ça finit toujours comme ça.
Satan Doret, donc avant-dernière étape avant d'arriver au Bonneau, ensuite j'irai à Auray et puis après le Bonneau. Ça se passe plutôt bien finalement, cette journée d'autostop, à part le départ de Lorient. J'ai à peu près tous les profils, des retraités, des jeunes actifs, des gens qui voyagent en groupe, une femme. On va voir qui va me prendre maintenant. Bon alors, on va être honnête, même si j'ai une bonne expérience du stop en France et un peu sur le Portugal, cela ne fait pas de moi un professionnel. Donc, en fouillant sur le net, j'ai trouvé cette pépite, il s'appelle Auto Nomade, et comme d'autres autostoppeurs aguerris, j'adhère totalement aux conseils qu'il nous donne dans ces petites vidéos. Donc n'hésitez pas, tapez Auto Nomade et suivez bien ce qu'il nous dit.
Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'autostop. Je vais te donner les 6 conseils, les 6 plus grands conseils que je pourrais donner si tu as envie de partir faire de l'autostop. Donc, le premier conseil que je voudrais te donner, c'est de ne pas être pressé. Alors, ça peut être tout con, mais moi, je sais que les pires moments d'autostop, que ça soit un petit peu les mauvaises rencontres, ou en tout cas pas forcément les mauvaises rencontres, mais les moments où on a été un petit peu angoissé, et les moments où ça devenait vraiment pénible de faire du stop, c'était les moments où on était pressé. Donc moi je me souviens en Espagne, je suis descendu jusqu'en Andalousie avec mon petit frère pendant un voyage sans argent. On pensait que ça allait bien marcher le stop en Espagne. En fin de compte, en Espagne, c'est réputé pour être dur et ça l'est. Donc on avait mis peut-être, je sais pas, une grosse semaine pour descendre en Andalousie. On pensait mettre 2 jours, passer beaucoup de temps sur place et rentrer tranquillement. Sauf que du coup, vu qu'on avait mis beaucoup de temps à descendre, bah, on a profité un maximum de temps sur place. Et pour rentrer, bah voilà, il nous restait que 2-3 jours. On était donc pressé et c'était vraiment un calvaire d'attendre des heures et des heures au bord de la route, de savoir qu'il fallait qu'on se dépêche et que ça marche pas. C'était vraiment horrible, donc c'était une sensation vraiment désagréable. Donc moi je te conseille de voyager sans être pressé. Ne te presse pas. Si t'as pas beaucoup de temps devant toi, peut-être qu'il vaut mieux prendre un car pas cher que de voyager en stop. Et niveau sécurité, c'est pareil, le fait d'être pressé, nous à chaque fois en fin de compte qu'on était un peu pressé, qu'on n'était pas assez patient, et ben c'est là que tu te mets à faire du stop à des endroits où tu aurais peut-être pas forcément dû faire du stop, monter avec des personnes en fin de compte que tu les sentais pas trop, mais vu que tu es pressé, tu montes quand même. Et en fin de compte, bah voilà, tu t'entends pas très bien avec ces personnes, c'est des moments un peu chiants à passer par exemple. Le deuxième conseil que je voudrais te donner, c'est que il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que plus les voitures roulent vite, moins elles vont s'arrêter. À l'inverse, plus elles roulent doucement, plus tu as de chances qu'elles s'arrêtent. Tout ça pour te dire que si tu fais du stop, en France par exemple, ça marche assez bien le stop. Mais tu vas dans d'autres pays comme l'Italie, l'Espagne, c'est plus compliqué. Tu vas au Maroc, alors là c'est super facile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, plus une voiture est à l'arrêt, plus elle aura de chances de s'arrêter. Donc ça veut dire que quand c'est difficile, vaut mieux aller demander aux gens dans les stations-service. Vaut mieux se mettre au feu rouge. Aller directement demander aux gens quand ils sont garés. Aller se mettre après un dodan. Donc vraiment se mettre là où les gens roulent doucement, parce que sur une route où les gens roulent vite, mais tu peux attendre des heures et des heures. Si tu veux une technique d'ailleurs, moi j'avais partagé une technique. Le troisième conseil que je voudrais te donner, c'est de montrer que tu es un voyageur heureux. Alors dans cette phrase, il y a 2 choses. Déjà, c'est mettre en évidence que tu es un voyageur. Nous, quand on fait du stop, c'est une petite théorie qu'on a et qu'on pense bonne. C'est que si tu montres que tu es un voyageur, bah, les gens te prendront plus facilement. Ça peut être tout simplement d'avoir un look de voyageur. Vaut mieux avoir un petit peu un look randonneur qu'avoir un look qui fait peur aux gens. Tu peux mettre ton sac en évidence quand tu fais du stop. Nous, c'est ce qu'on fait, on met toujours nos sacs en évidence pour que les gens comprennent qu'on est chargé. Ça peut être contre-intuitif, il y a des gens qui disent on va cacher les sacs parce que s'il y a les sacs, ils vont pas vouloir nous prendre parce que ça prend trop de place. Alors que nous, on préfère largement montrer nos sacs, montrer qu'on est des voyageurs. Et pareil, si tu arrêtes les gens au feu rouge ou à la station service, dis-leur que tu es un voyageur. Avant tout, tu leur expliques je suis un voyageur, je vais à telle destination en autostop, est-ce que je peux monter avec vous. Donc présente-toi, montre-toi en en tant que voyageur et en tant que voyageur heureux. Montre que tu es un voyageur heureux. Troisième conseil. Après, je voudrais te donner trois autres conseils. Ça serait plutôt pour la sécurité.
Un micro à la dérive. Le stop est mort. Vive le stop. Épisode 3.
Un truc important, c'est toujours de bien dire que tu fais du stop et de bien demander si le transport va être gratuit. Alors en France, on n'a jamais eu vraiment de problème quand on fait du stop. Les gens comprennent que tu fais du stop et que ça va être gratuit. Par contre, dans d'autres pays, faut faire attention avec ça. Nous, ça nous est arrivé une fois au Maroc, en passant la frontière entre la Mauritanie et le Maroc, il y a un no man's land. C'est pas très recommandé de marcher à cet endroit-là. Donc à l'aller, on avait été pris en stop. Au retour, on galérait à être pris en stop. Et du coup, c'est les militaires qui avaient arrêté un taxi pour nous. Nous, on est monté dans le taxi en se disant que les militaires, ils avaient dû leur expliquer qu'on faisait du stop parce que les militaires, on leur avait expliqué. Et arrivé au Maroc, le mec nous dit, bah voilà, vous me devez tant. Et nous, on lui dit, bah non, en fait, on n'a pas d'argent. Nous, on fait du stop. Et du coup, voilà, le ton a commencé à monter. Il a fallu s'expliquer. T'as vite fait de te retrouver dans une situation un petit peu dangereuse. Si la personne sent que tu l'arnaques et tout, ça peut, voilà, monter dans les tours. Donc voilà, toujours bien expliquer que tu voyages en autostop. Avant de monter dans la voiture, de bien demander si c'est gratuit. Donc dans des pays, t'as pas forcément besoin de demander si c'est gratuit. Mais dans d'autres pays, bah voilà, demande-le, ça peut t'éviter des problèmes. Le cinquième conseil, c'est toujours avoir une excuse pour s'arrêter et un code en cas de problème avec si tu voyages à deux. Je t'explique. Moi, je sais que des fois, tu vas monter avec quelqu'un et tu la sens pas trop. Alors, je te rassure, nous, on a fait beaucoup de stops, on n'a jamais eu le début d'un problème. Mais voilà, il y a des personnes que tu sens pas trop. Ça peut être une personne que tu peux voir que peut-être qu'elle a bu, donc tu as envie de descendre. Peut-être qu'elle a fumé, donc voilà, tu lui fais pas confiance, t'as pas envie d'avoir un accident. Ou tu sens qu'elle est un petit peu louche, ça peut arriver. Et dans ces moments-là, c'est bien d'avoir une petite excuse, de dire, voilà, peut-être prévoir une petite excuse pour pas te retrouver à court d'excuses au moment. Peut-être dire, voilà, que t'es malade en voiture, tu préfères t'arrêter là, ou que l'endroit est joli, tu préfères t'arrêter là. Nous, quand on voyage à deux, ce qu'on fait, c'est qu'on a un petit code. Voilà, moi, si je monte dans la voiture, Cindy par exemple est devant et moi je suis derrière, on va pas pouvoir se dire, bah voilà, moi je le sens pas trop, qu'est-ce qu'on fait, on descend ou pas. Donc on a un petit code. On demande à l'autre s'il a des nouvelles de Jean-Luc. Donc voilà, je lui ai demandé, est-ce que tu as des nouvelles de Jean-Luc? Et ça veut dire, je le sens pas trop, est-ce qu'on descend? Si elle me dit oui, bah ça veut dire que oui, elle est d'accord avec moi, on descend. Ou si elle me dit non, c'est qu'elle se dit, elle, que c'est bah voilà, que le mec est normal et qu'elle a pas forcément envie de descendre. Donc voilà, c'est une autre astuce, toujours avoir une excuse pour sortir de la voiture, se donner, si on voyage à deux, un petit code avec l'autre. Ça peut permettre d'éviter les situations un peu embarrassantes, un peu angoissantes si on sent pas le pilote. Et la sixième et dernière technique que je voudrais te donner, pareil, pour éviter de te faire voler ton sac, sans forcément dire te faire voler ton sac, mais ça peut arriver que voilà, les gens ils sont un peu stressés, un peu ça change les habitudes en fait de prendre un autostoppeur. Nous par exemple, c'est arrivé que le gars s'arrête à une station service, ils nous prennent pour faire pour nous prendre en stop, et qu'en fin de compte il oublie de faire le plein parce qu'on discutait avec lui, il nous a chargé les sacs, il est parti, voilà, en oubliant de faire le plein. Donc voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu dis au revoir aux gens, tu claques la porte, ils peuvent très bien partir, et en fin de compte t'as pas eu le temps de sortir ton sac du coffre par exemple. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que quand on sort de la voiture, vu qu'on est deux, moi si je suis devant, je sors de la voiture, Cindy reste dans la voiture, je laisse la porte avant ouverte. Je dis tout le temps, on va récupérer nos sacs avant de partir. Donc j'ouvre le coffre, je vais récupérer les sacs. Cindy sort, et c'est qu'à ce moment-là que après, bah, je claque la porte et on dit au revoir à la personne. Donc voilà, si vous êtes deux, il y a une personne qui sort, qui va chercher les sacs, qui les sort. Après, l'autre personne sort et vous dites au revoir. Et si t'es tout seul, le mieux c'est de garder ton sac avec toi. Si tu vaut mieux voyager avec un petit sac. Et voilà, si ton sac est dans le coffre, bah, ce que tu fais, c'est que tu ouvres la porte, tu laisses la porte ouverte. Tu vas sortir ton sac. Comme ça, la personne, déjà, elle a pas forcément envie de démarrer avec la porte ouverte. Si jamais elle commence à avancer parce qu'elle a oublié ton sac, tu peux gueuler, il va t'entendre. Enfin, t'as compris. Donc voilà, c'est les 6 conseils que je voudrais te donner si tu veux te lancer dans le voyage en autostop. Voilà, nous, pour te dire, il nous est jamais rien arrivé comme problème en voyageant en autostop. Ça a toujours été de belles rencontres, des belles aventures. On a été loin grâce à l'autostop. Donc n'hésite pas à faire du stop.
C'est pas facile, cette Anne Doré. Non. Pas beaucoup de voitures. Des voitures souvent pleines. ou avec des personnes âgées, ou alors qui me regardent pas, quoi. Ah, peut-être que là... Non.
Et un endroit, ça dépend aussi du moment de la journée. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, si vous y allez à 11h, c'est pas bon. Mais justement, on a quand même analysé des sortes de phénomènes c'est-à-dire que un endroit, par exemple le matin, il y a cette première vague des gens qui vont travailler. Donc nous, c'est ce qu'on appelle la première vague. Et là, si on prend la première vague, disons, on est dans une ville, on la prend à la sortie de la ville, et là, on peut quasiment aller très loin, parce que cette première vague, elle est assez puissante, en fait. C'est tous les gens qui quittent la ville. Et après, vers 10 heures, là, il y a une sorte de reflux qui va peut-être durer 2-3 heures. Et là, si on est au même endroit, mais genre à 10 heures, là, on est dans le reflux. Et là, ça peut durer 2 heures. Et là, souvent, il y aura une nouvelle vague qui va être après le déjeuner, quand les gens ont fait leur pause. Alors, cette vague-là, elle est un peu moins forte que la première qui est à 8 heures du matin, mais elle est quand même intéressante. Et alors, sinon, il y a aussi cette grosse vague qui est en fin de journée, si vous êtes dans une grande ville. Là, c'est les gens qui quittent les bureaux. Et donc là, ça peut vous emmener très, très loin, quoi.
Certaines dorées m'exaspèrent, c'est la marée basse côté voiture, et je commence un peu à perdre patience. Or, c'est ça le défaut premier de l'autostoppeur débutant, c'est de croire que l'automobiliste est à son service. Écoutons encore ce qu'en dit Simon Badi de Barral. Le stop est une expérience qui consacre l'échec comme une étape nécessaire à la réussite. On n'a nul droit d'exiger qu'une voiture s'arrête. L'automobiliste qui me prendra n'est aucunement responsable de mon temps d'attente. Je suis mon propre comptable de ces petits échecs successifs et dois pourtant garder le moral et la volonté afin de continuer à faire du stop pour enfin apprécier que tout cela se transforme au final en succès. En ce qui me concerne, je pense que j'étais dans ce qu'on appelle un creux de la vague. Il était 15h et le profil des conducteurs n'était pas a priori celui de ceux qui s'arrêtent et ouvrent leur porte. Mais à force de sourire, de repérer un nouvel emplacement, comme par exemple juste après un rond-point un peu plus loin sur la route, on force un peu le destin et une voiture s'arrête, comme c'est une Twingo par exemple.
Ah, une voiture vient de s'arrêter, une Twingo avec une dame. Je vous laisse débarrasser. Merci. Alors, je fais un reportage radio sur le stop. Vous êtes ma cinquième conductrice.
Je fais pas mal de voitures, donc je fais que des petits trajets. Mais c'est vrai que je m'arrête régulièrement, on va dire.
Donc c'est un reportage pour Radio Balise. Radio Balise, c'est une radio qui est émise au Pays de l'Orient et aussi à Auray, sur 99.8. Et donc le reportage a pour objet la pratique du stop et comment il est perçu par les conducteurs. Et là, vous êtes ma cinquième conductrice, mais j'avoue que j'ai un peu galéré à cette heure.
Vous venez d'où ?
De l'Orient.
Vous êtes venu de l'Orient ?
De l'Orient, en passant par Hennebont, Brandérion, Plévigné, Landévent et cette heure.
Pas mal.
Alors pourquoi vous m'avez pris en stop ?
Je prends régulièrement des gens en stop. Parce que ma fille fait du stop.
Ah, voilà.
Et des fois, j'ai pas le temps, je suis en retard, donc je m'arrête pas. Donc, des fois, c'est juste pour 500 mètres, donc ça n'a aucun intérêt. Mais depuis que ma fille fait du stop, oui, je m'arrête un peu plus souvent.
Donc il y a une empathie naturelle vers les autres autostoppeurs, parce que votre propre fille en fait. Pourquoi votre fille en fait ?
Parce qu'elle n'a pas de voiture, elle n'aime pas le bus, et qu'elle aime bien bouger comme ça pour rejoindre les copains à droite à gauche.
Et elle a quel âge ?
18 ans.
Donc à peine majeure, ça y est, elle s'est mise au stop.
Mais je pense qu'elle devait déjà le faire avant sans me le dire.
D'accord. Et quelqu'un dans la famille le faisait auparavant ?
Non, moi j'en ai fait très très rarement quand j'étais jeune. Mon fils, je crois qu'il en a jamais fait. Pourtant c'est pas un truc qu'on fait. Pas souvenir moi d'en avoir fait énormément plus jeune. Ouais.
D'accord. Et parmi les nombreuses fois que vous avez pris quelqu'un en stop, est-ce que vous avez des bons ou des mauvais souvenirs ?
J'ai jamais eu de mauvaises rencontres ou mauvais souvenirs, hein, pas du tout. À chaque fois c'était plutôt même agréable. Enfin, dont deux fois, il n'y a pas si longtemps que ça, deux fois des jeunes hommes en panne d'essence qui se baladaient avec leurs petits jerrycans. Donc là, on est obligé de s'arrêter.
Ouais.
On peut pas les laisser sur le bord de la route.
Vous habitez où ?
Sainte-Anne.
Et vous voyez pas mal de gens faire du stop entre Sainte-Anne d'Auray, puis Plunerette et Auray ?
Pas tant que ça, non. Plus fin de semaine, week-end, mais la semaine, pas tant que ça, en fait.
Les lycéens, par exemple, qui reviennent d'Auray ?
Non, j'en vois pas énormément, en fait. Je trouve que ça se perd, même. Il me semble, hein.
Oui.
Mais voilà, moi, je circule, j'ai un petit secteur, donc je fais beaucoup de voitures, mais que des petits trajets.
Les trajets dans le secteur rural de Sainte-Anne-d'Auray autour ?
On va dire Plunerette, Sainte-Anne, Mériadec, Plumerga, tout ce petit coin-là. Ouais.
Et là, du coup, on voit beaucoup moins d'autostoppeurs que sur les grands axes.
Ah oui, ouais. Ou alors, ils ont beaucoup de chance et ils sont attrapés avant que je passe.
Et une voiture, par contre, quand elle part, c'est plutôt pour aller vers les stations balnéaires comme Carnac, Auray ?
Je pense, oui, surtout Auray, ouais. Elle fait surtout Sainte-Anne, Auray. Je pense pas qu'elle aille beaucoup plus loin.
Là, elle arrive à...
Elle a des copains qui, maintenant, ont des voitures. Donc, elle doit en faire un peu moins. Mais c'est surtout ouais, Sainte-Anne, Auray. Donc, c'est vraiment des petits trajets. Apparemment, ça marche bien.
Qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs de l'émission pour que les gens prennent davantage les gens qui font du stop ?
Mais il faut pas avoir peur. Il n'y a pas que des méchants sur Terre. Non, mais c'est vrai. Je pense que les trois quarts des gens ont peur de tomber sur la mauvaise personne. Mais ici, je pense pas... Je suis peut-être naïve, hein, mais je pense pas qu'on risque grand-chose.
Pourquoi il y a cette image de l'autostoppeur violent, qui on ne peut pas faire confiance ? C'est quand même un stéréotype
ça,
qu'elle
ça
a la vie tenace.
Hein, ouais, je ne sais pas d'où ça vient, mais moi, j'ai jamais eu peur de prendre quelqu'un en stop. Non, je pense que... Après, c'est une ouverture d'esprit. Hein. Mais non, faut pas laisser les petits jeunes sur le bord de la route. Par contre, je vais être obligée de vous laisser.
Très, très bien, parce que moi, je vais au Bono après. Donc, du coup, il y a le pont qui me permet de... qui enjambe la voie express. Eh ben, super. Voilà. Merci à vous. C'était comment votre prénom ?
Marie-Caroline.
Marie-Caroline, merci Marie-Caroline. Il ne me reste plus que deux étapes avant d'arriver au Bono. Merci
à
vous.
Non, après c'est tout droit, je pense que les gens s'arrêtent là.
Ouais. Et pour le retour, je vais faire Auray-Lorient et là je pense qu'il n'y a aucun problème. Sur les grands axes, ça...
Oui, c'est plus facile.
Merci à vous. Voilà, j'ai fait le plus dur, enfin ce qui me paraissait le moins évident car je ne connaissais pas du tout cette route en tant qu'autostoppeur, alors qu'ici, à ce carrefour du Broc, à la limite d'Auray, beaucoup de jeunes s'y retrouvent pour rentrer en stop sur le Bono après une journée de détente avec leurs potes sur Auray. Dans le prochain épisode, on rencontrera Max, qui connaît bien Radio Balise, et Nicolas, qui me ramènera enfin sur l'Orient. Allez, je lance le générique et on se retrouve samedi pour une rediff sur Radio Balise et aussi sur Célab à Rennes. Bye.
Un micro à la dérive.
L'émission de reportage Un micro à la dérive vous propose de devenir l'un de ses producteurs animateurs. Vous êtes curieux ? Vous avez le sens du contact ? Vous voulez traiter des sujets de société ? Alors rejoignez-nous. Vous serez formé aux techniques d'interview et de montage. Pour plus d'informations, contactez Gaëtan Priori au 06 521 585 23 06 521 585 23 ou par mail @laposte.net. Merci de rester sur Radio Balise.